La revue de presse internationale, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Rarement une victoire électorale avait été aussi amère que celle des chrétiens sociaux allemands hier en Bavière.
La CSU qui remporte le scrutin régional dans son fief historique, mais qui perd, c'est vrai, la majorité absolue au Parlement régional avec seulement 37% des voix. C'est une débâcle, peut-on lire ce matin dans Der Spiegel. Et on en jugera avec les images de cette soirée électorale, mine déconfite et silence d'horreur au QG de la CSU, qui voit son score réduit de 10 points par rapport au dernier scrutin. Quand le parti arrivé second, les Verts, a célébré son score dans la liesse. Ses leaders se sont même offert une séance de stage diving, sautant depuis la scène dans la foule déchaînée. Ambiance donc de concert rock pour les Grünen, crédités eux de 18% des voix. La Bavière n'appartient plus à la CSU, en déduit Der Spiegel, et c'est bel et bien un séisme fédéral bavarois, ce que confirme le quotidien munichois, la Bund Zeitung, pour qui, aussi inimaginable que cela aurait pu être il y a quelques mois, eh bien, Munich s'est mise au vert. Les circonscriptions de la capitale bavaroise ont plébiscité les écologistes centristes au détriment donc des conservateurs, alliés d'Angela Merkel dans la coalition de gouvernement, mais desservis par une ligne très à droite et des tensions très vives avec la chancelière. La défaite est cinglante également, nous dit la Bund Zeitung, pour l'autre partenaire du gouvernement, le SPD, qui, lui, n'a réussi à conquérir aucun siège à Munich. Et voilà qui pousse Die Welt à se demander si cette défaite des participants à la GroKo, la grande coalition au pouvoir à Berlin, ne pourrait pas précipiter la fin de cette alliance que l'on sait moribonde depuis des semaines. Mais l'entourage de la chancelière, lira-t-on dans le Süddeutsche Zeitung, fait tout pour que la défaite d'hier reste une péripétie régionale. Angela Merkel est même tentée de voir le positif dans l'épisode bavarois d'hier, en ce qui l'affaiblit encore le leader de la CSU, Horst Seehofer, ministre de l'Intérieur et principal frondeur au sein de la GroKo. Il est sans doute encore trop tôt pour enterrer cette dernière, conclut ce matin les journaux allemands, qui gardent l'avis de décès bien au chaud. En attendant, le prochain test électoral, ce sera dimanche prochain dans le Land de Hesse, la région de Francfort.
Et puis direction l'Afrique du Sud à présent, où le président Cyril Ramaphosa avait revêtu le costume traditionnel Zoulou. C'était hier.
Oui, la peau de léopard et le bouclier rituel pour le chef d'État sud-africain en terre Zoulou, donc dans le nord-est du pays, ce dimanche, pour y faire une annonce particulièrement attendue, extrait d'un reportage de la chaîne ENCA.
We are celebrating today the return of the land to our people in this area. This is history in the making.
Nous célébrons la restitution des terres au peuple de cette région. Nous faisons l'histoire, dit Cyril Ramaphosa sous les applaudissements. Et il ajoute que c'est le lancement d'une grande réforme agraire qui va redistribuer les terres agricoles au profit du peuple, comprenez des communautés noires sud-africaines qui avaient été expropriées sous l'apartheid. The Independent Online nous précise que cette première étape symbolique prévoit de rendre aux Zoulous 4500 hectares de terres sur lesquelles vivait leur communauté il y a plus de 100 ans. C'était au moment de la Première Guerre mondiale. Le territoire avait été saisi pour servir de récompense aux soldats blancs qui revenaient des combats en Europe. Dans les années 40, les Zoulous avaient également été déplacés de force pour laisser leurs terres à l'exploitation forestière et sucrière. Ils récupèrent donc aujourd'hui leur possession. Mieux vaut tard que jamais, déclarait hier Cyril Ramaphosa, cité cette fois par le site d'info sud-africain News 24. Il s'agit, selon lui, de réparer un péché originel. Cela aurait dû être fait depuis longtemps, dit le président. Et c'est une manière, nous explique la Voix de l'Afrique, de prendre ses distances critiques avec son prédécesseur au pouvoir sud-africain, Jacob Zuma, tombé à force de scandales de corruption. Ramaphosa, avec sa réforme agraire, veut ramener son parti, l'ANC, dans le cœur de l'électorat paysan et noir, en vue d'élections générales qui se tiendront au printemps prochain. Il se dit prêt, pour cela, à modifier la constitution, à organiser des expropriations sans indemnisation, s'il le faut. La Voix de l'Afrique, encore elle, nous rappelle que les terres en Afrique du Sud restent très majoritairement aux mains de la minorité blanche, même un quart de siècle après la fin de l'apartheid.
Et puis on termine, Camille, avec un reclus, l'Australien Julian Assange, fondateur de Wikileaks. Il est réfugié depuis plus de 6 ans dans les locaux de l'ambassade d'Équateur. C'est à Londres.
Et on en reparle car on apprend dans la presse anglophone qu'Assange va sortir de 6 mois de nuit médiatique. Depuis le mois de mars, nous explique The Washington Examiner, l'Équateur le privait de tout accès à l'extérieur, internet, téléphone et même visite visite privée. Mais après l'intervention de l'ONU qui a dénoncé ces derniers jours auprès du président équatorien Lénine Moreno la détention arbitraire de l'Australien, Quito a accepté de faire un geste en lui redonnant une fenêtre sur le monde extérieur, à savoir une connexion Internet à Londres. The Guardian nous rappelle que le régime sec pour le premier des lanceurs d'alerte avait été mis en place parce que Julian Assange ne respectait plus les règles qui avaient été passées avec ses hôtes en exprimant ses opinions souvent sulfureuses sur les réseaux sociaux. De réfugié dans l'ambassade qu'il avait accueilli il y a 6 ans pour le protéger d'une extradition vers la Suède ou les États-Unis, Julian Assange est donc devenu progressivement un très encombrant détenu dont les Équatoriens ne savent plus du tout comment se séparer. À ce sujet, on relira cette enquête publiée il y a 2 semaines maintenant toujours dans le Guardian où on révélait comment des diplomates russes avaient monté toute une opération secrète pour sortir discrètement Assange de l'ambassade londonienne, l'exfiltrer vers Moscou pendant la dernière nuit de la Saint-Sylvestre. Le projet avait finalement été abandonné car jugé trop risqué.